au départ de Paris à partir de 299 € jusqu'au 6 février 2019.
Tarif TTC aller-retour, frais de service à France.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 6 mai au 16 juin 2019.
La goûteuse d'Hitler, c'est le roman phénomène de Rosella Pastorino. 1943, Hitler est obsédé par la peur d'être empoisonné. Alors le Führer va faire recruter Rosa, une jeune femme qui devra goûter tous ses plats et devenir son cobaye. Une histoire fascinante, obsédante, inspirée de faits réels. Ce roman, salué par la critique, a reçu 4 prix littéraires italiens, parmi les plus prestigieux. La goûteuse d'Hitler, de Rosella Pastorino. Un événement Albin Michel.
RTL Matin.
Nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques instants, mais pour l'instant 8h43 et sur RTL, c'est l'heure de la revue de presse avec Amandine Bégaud, avec d'abord ce chiffre publié à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le suicide. Amandine.
4,7% des 18-75 ans ont déjà pensé à mettre fin à leur jour au cours des 12 derniers mois. 4,7% y ont pensé, pas un jour hein, comme ça, non ? Au cours de l'année qui vient de s'écouler. C'est énorme. Cela représente, nous dit ce matin Libération, 1 million de personnes chaque année en France, rappelle le journal. 9 000 personnes passent à l'acte. C'est d'ailleurs l'un des taux les plus élevés en Europe. Et ce qui inquiète aujourd'hui les psychiatres, c'est le risque de contagion suicidaire. En moyenne, explique l'un d'entre eux dans les colonnes de La Croix, un suicide, c'est 7 proches endeuillés, une vingtaine de personnes impactées. Or, le risque de suicide, dit-il, augmente significativement dans l'entourage d'une personne suicidée, un phénomène de contagion observée également lors du suicide d'une personnalité, par exemple, explique le docteur Notre-Dame. Dans le mois qui a suivi la mort de Marilyn Monroe en 1962, on a recensé une augmentation du taux de suicide de 12,5% aux États-Unis, plus 40% pour la seule ville de Los Angeles. C'est incroyable. En France, poursuit-il, après le suicide de Pierre Bérégovoy en 1993, les suicides par arme à feu ont connu une très forte augmentation chez les hommes du même âge, plus 26,5%. Le risque est explique-t-il, touche bien sûr plus fortement les personnes vulnérables. Il y a comme un collage identitaire qui pousse à adopter tous les comportements de l'autre, y compris les plus extrêmes. La priorité, ajoute-t-il, c'est d'accorder une attention toute particulière à la vulnérabilité, plus ou moins extériorisée, de toute personne confrontée à un suicide. Éviter aussi les formules du type « et maintenant, il repose en paix hein, » pour ne pas que le suicide apparaisse comme la seule issue possible pour une personne qui va mal. Le psychiatre en appelle aussi à la responsabilité des médias, à la nôtre. Donc, il invite chacun à faire preuve de retenue en donnant le moins de détails possible ou en évitant de présenter ce décès comme un geste romantique ou une ultime quête de liberté.
Vos quotidiens qui reviennent aussi largement sur cette idée lancée hier par Gérald Darmanin, le plafonnement des niches fiscales.
Oui, et ça fait bondir l'opinion notamment. Le concours Lépine de la chasse aux riches, titre le journal, qui met en garde. Hein, on pourrait, dit-il, assister à une nouvelle fuite à l'étranger des Français les plus riches. Jean-François Flity, qui a fondé un cabinet de gestion du patrimoine, est d'ailleurs formel. Entre la crise des gilets jaunes, le débat sur l'ISF et l'instabilité fiscale, je reçois, dit-il, de plus en plus d'appels de personnes qui ne pensaient pas partir. Des gens de 55-60 ans attirés par les paradis fiscaux que sont la Belgique, le Portugal et maintenant l'Italie pour les retraités. Scalp de riches, c'est le titre ça de l'édito du Figaro, où voilà, écrit Gaëtan de Capelle, comment une crise politique née d'un ras-le-bol fiscal est en partie en train d'accoucher d'une nouvelle hausse d'impôts. Le Figaro, qui au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en banlieue, nous raconte ce matin les coulisses de son rendez-vous raté, manqué, diront certains, avec Jean-Louis Borloo. Souvenez-vous, c'était l'an dernier, l'ex-ministre de la Ville acceptait à la demande d'élus de quartier et d'associations de se refoutre, comme il dit, dans les emmerdes. Pendant des mois, il a écouté, consulté, rencontré, convaincu qu'il leur sortirait un grand plan hein, pour les quartiers. Mi-avril, d'ailleurs, le chef de l'État le reçoit pendant plus de 2 heures, la veille même de la remise du rapport. Le 21 mai, les deux hommes passent 45 minutes au téléphone. Jean-Louis Borloo, raconte le Figaro, dîne alors au restaurant avec son épouse et un troisième convive donc s'invite, c'est Emmanuel Macron au téléphone qui accapare Borloo pendant 45 minutes. C'est formidable, lui dit le président, j'achète tout, la philosophie, les mesures, on va faire quelque chose de génial. Viens une heure plus tôt demain, bref, tout semble prêt, tout a été validé. Mais le lendemain, patatras, Emmanuel Macron ironise sur les deux mâles blancs qui s'échangent un plan pour les banlieues. Une méthode, dit-il à l'époque aussi âgée que lui, qui ne marche plus à ses côtés. Épaules rentrées, regard baissé, Borloo en caisse, sans sourciller. Seul, écrit Marion Mourque, son air hagard traduit ce qu'il pense. 9 mois plus tard, l'ancien ministre a pris du champ, multipliant les voyages à l'étranger. En septembre dernier, Emmanuel Macron a essayé, paraît-il, de renouer le contact. Il a même sollicité son épouse hein, via la sienne. Depuis, les deux hommes échangent quelques SMS, mais mais rien de plus, ça suffit, dit maintenant Borloo. On a vu ce que ça a donné pour les banlieues. Il se dit toutefois très inquiet sur l'état du pays et conclut le Figaro, d'être toujours très sollicité en pleine crise des Gilets jaunes. Un important responsable syndical lui aurait ainsi écrit ceci. Ne vous éloignez pas trop, on va avoir besoin de vous. À suivre donc.
Eh bien, nous allons suivre tout cela. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.